Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux t'appeler, par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te voir.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Une partie du geste littéraire consiste à faire exister des vies dans une langue. Dans votre dernier livre, Édouard Louis, vous écrivez n'avoir pas peur de vous répéter pour parler des vies comme celles de votre père, car des vies comme la sienne, personne n'a envie de les entendre. Il y a dans ce texte quelque chose qui insiste et ne trie pas les souvenirs, mais les laisse appuyer là où ça fait peut-être encore mal. Dans ce livre, vous êtes le fils qui parle d'eux, qui parle face, qui parle seul en tout cas, et vous considérez que c'est une chose violente. Dans ce livre, vous êtes celui qui a failli tuer le père, vous êtes celui qui a failli lui dire je t'aime, vous êtes celui qui décrit un corps comme le lieu des traces de la violence politique. Qui a tué mon père? C'est le titre de ce texte paru aux éditions du Seuil, comme vos précédents. Bonsoir Édouard Louis.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu dans cette dernière émission de Par les temps qui courent. Peut-être que ce mot tuer dans le titre évince le mot aimer qui est si présent. Et s'il n'y a pas de point d'interrogation à ce titre, il y en a une autre question qui serait qui a aimé mon père? Est-ce que vous diriez que c'est le moteur des premières pages?
Oui, en tout cas, c'est un livre sur la difficulté d'aimer et sur la difficulté à dire je t'aime. Il y a des gens qui savent écrire sur l'amour. Barthes sait faire ça, Ernaud sait faire ça, Proust sait faire ça, a su faire ça. Moi, je suis pas très doué pour ça. Je sais pas très bien parler de l'amour. Je suis plus doué, je pense, pour parler de ce qui va pas, parce que parler de ce qui va pas, pour moi, c'est avoir l'espoir que ça ira, parce qu'on en parlera, parce qu'on cherchera des solutions, parce qu'on trouvera des manières de le faire. Et donc, dans Qui a tué mon père, je montre comment mon père était quelqu'un qui, toute sa vie, n'a jamais su dire « je t'aime ». Il a jamais su dire « je t'aime » à moi, son fils. Il a jamais su dire « je t'aime » à ma mère. Il a jamais su dire « je t'aime » aux gens autour de lui, parce qu'il devait être masculin, parce que c'était un petit village comme ça, un milieu populaire, post-ouvrier, où la masculinité était très importante. Et dire « je t'aime », c'était un truc de fille, c'était un truc de pédé. Et donc mon père l'a jamais fait. Et paradoxalement, ou logiquement, c'est quelque chose qui l'a détruit. C'est quelque chose qui l'a détruit. Je raconte par exemple comment, comme il a jamais dit « je t'aime » à ma mère, à 45 ans, ma mère est partie. Elle l'a fait partir plutôt.
Plus jamais.
Elle lui a dit « ne reviens plus jamais ». Et lui, il lui a demandé « plus jamais ». Elle lui a dit « oui, plus jamais ». Et il a perdu cette femme qu'il aimait. Et ça a détruit quelque chose en lui. Et on voit très bien là que la question de l'amour... C'est une question politique, c'est une question sociologique aussi, parce que justement, peut-être que combattre la domination masculine, combattre le masculinisme, combattre toutes ces idées de ce que doit être un homme, de ce que doit faire un homme, de ce que doit pas faire un homme, peut-être que si on avait un peu plus combattu ça politiquement, mon père aurait pu dire « je t'aime » et qu'il aurait pas perdu la femme qu'il aimait, qu'il aurait pu communiquer avec son fils. Et voilà, donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'essaye de développer, dont j'essaye de parler dans Qui a tué mon père. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce que c'était pas que mon père, c'était moi.
C'est ce que
j'allais
dire, c'était vous et puis c'était peut-être aussi le père de votre père, parce que dans la question qui a aimé votre père, il y aurait aussi le fait que lui-même ne s'est pas entendu dire je t'aime si on en croit vos lignes.
Oui, c'est vrai, c'est une sorte de reproduction du silence, d'héritage. Du silence, comme ça, le silence qu'on transmet aux autres, la faculté à ne pas dire. Et mon père a vécu la même chose avec son père à lui, et je raconte dans Qui a tué mon père cette scène où j'ai, je sais pas, 11 ans, 12 ans, je me promène dans la rue avec ma meilleure amie de l'époque, Amélie, Et on trouve un portable dans la rue, comme ça, qui traînait par terre. Alors on le ramasse. Et puis, toute la nuit, on a envoyé des messages à des gens sur MSN, sur des... Et quelques jours après, la police a appelé mon père pour lui dire « Votre fils a volé un téléphone ». En fait, on l'avait juste trouvé, mais la police a menti. Et donc, mon père m'a emmené au commissariat, il m'a giflé, il m'a dit « Tu es un délinquant, tu fais honte à la famille ». Dans le trajet, comme ça, dans la voiture jusqu'au commissariat, il m'a pas parlé, il m'a rien dit. Et quand on est arrivé devant la police, mon père s'est assis et il a dit au policier « Ah, mais mon fils n'aurait jamais volé quelque chose ». Mon fils, c'est quelqu'un de bien. Mon fils, il va devenir médecin, il va devenir avocat, il va devenir ministre. C'est le petit garçon le plus intelligent du village. Des trucs comme ça, un peu délirants. Mais en tout cas, je voyais tout à coup qu'il pensait des choses de moi, qu'il pensait des choses sur moi, qu'il n'avait jamais prononcées devant moi, qu'il m'avait jamais dites. Et je découvrais ça comme ça par accident, en fait, que mon père peut-être m'aimait. Et ça, je le savais pas. Et pourquoi il me le disait pas? Et donc voilà, j'essaye dans Qui a tué mon père, de faire cette archéologie du silence, en fait. Pourquoi on ne le dit pas? Et donc ça, c'est là que la question de l'amour, elle devient politique. C'est pas un truc comme ça, niant, je sais pas comment on dit. C'est la question de la possibilité d'exister, la possibilité d'être, la possibilité de pas être chassé, de pas se chasser soi-même du monde. Et voilà, oui.
Et c'est l'un des enjeux, je le rappelais en introduction, de ce texte-là, qui décide de faire exister dans la langue des vies qui, par ailleurs, en ont plus ou moins le droit, voire pas le droit du tout. Je dirais, Edouard Louis, que c'est un texte de retour au départ, puisque vous racontez que vous n'avez pas vu votre père pendant des années, que vous voyez son visage à la porte d'entrée d'une maison à laquelle vous frappez, que d'un seul coup, ce qui apparaît, c'est non seulement lui, mais c'est aussi le temps passé sans le voir. En fait, tout le temps, ce texte, il dit ce qui n'a pas eu lieu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je dis à un moment du livre, j'ai plus de souvenirs avec mon père, j'ai plus de souvenirs de ce qui n'a pas eu lieu que de ce qui a eu lieu, parce que finalement les souvenirs de mon père, j'en ai très peu. Moi, quand j'étais enfant, mon père partait au café avec mes frères, avec les garçons, et moi, comme j'étais un petit garçon efféminé, considéré comme pédé, mon père m'emmenait pas au café, donc je restais à la maison avec les femmes, avec les filles, donc j'ai grandi entouré par des femmes. Et j'étais très heureux, j'avais pas du tout envie d'aller au café avec les hommes qui parlaient de foot et tout ça, ça me faisait super peur. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et donc mon père, je l'ai très peu vu, je l'ai très peu entendu, parce qu'il se taisait aussi, parce que j'avais pas envie de le connaître non plus, hein. Le qui a tué mon père, c'est ça aussi. Je me rends compte que...
Bah, vous racontez votre joie à voir que sa voiture n'est pas là et que le signe de l'absence est un signe heureux. En fait, bon, peut-être oui. vous le transformez ou ça a aussi cette valeur-là maintenant, mais sur le coup, c'est ça.
Oui, c'est ça. Je rentre tous les jours de l'école, du collège, à 12, 13, 14 ans. Et je sais que si la voiture n'est pas dans la maison, ça veut dire que mon père n'est pas là. Et donc, pendant des années de ma vie, c'est cette phrase qui a structuré ma tête. C'est « faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit pas là ». Et je pensais qu'à ça. C'était la phrase comme ça qui m'obsédait. Vous voyez, c'est bizarre quand une phrase, elle se met à vous coloniser la tête comme ça, à être là tout le temps avec vous comme ça. Et donc c'était ça. Et là, qui a tué mon père, en effet, comme vous dites, c'est un retour, c'est de parler de ce que j'ai pas voulu voir pendant tellement d'années, parce qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai tout fait pour être l'opposé de mon père, où j'ai tout fait pour être le plus loin possible de lui. Il y a eu des moments de ma vie comme ça où, quand j'ai commencé à étudier, alors que mon père n'avait pas étudié, mon grand-père, ma grand-mère non plus, quand j'ai commencé à aller vivre en ville, alors que à Paris, d'abord à Amiens, puis à Paris, alors que ma famille n'avait jamais vraiment pu échapper au petit village où on avait grandi de 900 habitants comme ça, j'ai tout fait pour ne surtout pas le connaître, en fait. Et là, c'est justement qui a tué mon père, c'est un moment où j'essaye de venir comprendre tout ça, de venir comprendre cet homme, de venir comprendre cette vie. Et comme vous dites, ça veut dire parler des gens dont on parle pas. C'est vrai que là, pour moi, dans la littérature, il y a presque rien sur les classes populaires. Il y a Annie Ernaux, il y a Didier Ribon, il y a Simon Johannin, il y a des personnes qui essayent de faire quelque chose aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il y a qu'il n'y a pas de livre sur les pauvres, sur la pauvreté, sur les classes populaires, sur les gens, sur les milieux les plus, comme ça, persécutés politiquement et les plus pauvres et les plus... Mais si vous voulez, souvent la vision qui en est donnée est tellement pas réelle que c'est une autre manière de ne pas parler d'eux, en fait, vous voyez. C'est un peu tous les films qu'on voit sur les pauvres où on a l'impression de voir Groland, vous voyez, la vie est un long fleuve tranquille, donc c'est une espèce de blague comme ça. Moi, ce que j'ai voulu, c'était vraiment parler de ce monde, de mon enfance, des corps, des gens, de qu'est-ce que c'est que d'avoir le dos broyé par l'usine, qu'est-ce que c'est que de pas pouvoir manger, qu'est-ce que c'est que de lutter ou de ne pas lutter contre cette vie-là, qu'est-ce que c'est que d'être une femme aussi, qu'est-ce que c'est que d'être un enfant gay, qu'est-ce que c'est que parce que très souvent aussi quand on parle des classes populaires, quand rarement des gens essayent de le faire, on en parle un peu comme on en parlait dans les années 50, quoi. Comme s'il n'y avait pas eu entre deux le mouvement gay, le mouvement LGBT, le mouvement féministe, le mouvement antiraciste. On ne peut pas parler des classes populaires comme on en parlait dans les années 50. Et donc moi, quand je parle du corps de mon père, de cet homme machiste, viril, hétéro, j'essaie d'intégrer dans sa vie la dimension du genre, de la masculinité, de la sexualité. Parce que même si mon père était hétéro, il a été constitué par l'homosexualité de façon négative, parce que tous ses comportements, c'était « je ne suis pas un PD, donc je fais pas ça ».
D'ailleurs, vous dites que c'est l'homophobie qui fait que votre père ne fait pas d'études et que c'est finalement des processus politiques qui le met dans cette dynamique du « ne pas hein ». Vous citez Sartre qui s'interroge sur le lien entre ce que nous faisons et ce que nous sommes, en disant peut-être que la vie de mon père vaut pour ce qu'il n'a pas fait et pour les actes qui n'ont pas eu lieu. On dit que c'est une sorte de livre de retour, Édouard Louis. Il me semble que c'est un livre où vous décidez que vous allez le regarder, votre père, le corps de votre père, mais j'ai l'impression qu'en filigrane, c'est aussi un livre où vous décidez qu'il va être possible d'être regardé par lui.
Oui, en tout cas, c'est un espoir. Et je dis au début du livre, comme ça, qu'il y a une sorte, en effet, de double violence, parce que c'est moi qui parle de mon père, il ne parle pas pour lui-même. À cause de la dépossession, de l'exclusion sociale, qui fait que dans certaines classes, dans certains milieux, la dépossession est telle qu'on est privé de la possibilité de voir sa propre vie, de parler de sa propre vie. On ne voit même plus sa vie. Voyez, ça c'est quand même une forme de dépossession extrême, de dépossession extrême. Et parce que d'abord, il va penser que sa vie ne vaut pas la peine d'être racontée. C'est un truc de la bourgeoisie d'écrire ses mémoires, normalement, vous voyez. C'est les femmes politiques, les hommes politiques, ou alors, là, ça a été pendant très longtemps la bourgeoisie, Rousseau, Beauvoir. Mon père, il sait même pas que sa vie est racontable. Il sait pas qu'elle dit quelque chose sur le monde. Et comme je dis aussi dans le livre, toute la violence qui l'a accablé sa vie, la pauvreté, le silence, la domination masculine, qui l'a affecté même lui en tant qu'homme, parce que comme vous étiez en train de dire, je raconte dans le livre que pour mon père, dans son enfance, être un vrai garçon, être un vrai dur,
c'est
s'exclure du système scolaire. C'est les filles et les PD qui écoutent à l'école, qui font ce que les profs demandent. Et donc, du coup, pour construire son identité masculine, dans le milieu de mon père, dans la classe de mon enfance, il fallait s'exclure du système scolaire le plus vite possible. Mon père a arrêté l'école à 14 ans, et donc c'était se priver potentiellement d'un avenir différent, d'un avenir plus facile, plus confortable, qui aurait été permis par des études. Et donc, on voit comment tout ça est imbriqué. Et c'est ça la manière radicalement nouvelle qu'il est important de développer aujourd'hui, de parler des classes populaires, et en effet il y a ça dans la vie de mon père, il y a cette dépossession permanente qui fait qu'à un moment toute cette violence lui-même il la voit plus. Enfin, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est parce que c'est, on le dit jamais assez, mais la violence, quand vous la vivez tout le temps, en permanence, de manière répétée, tout le temps sur votre corps, dans votre quotidien, comme le vivent les classes populaires, eh bien, à la fin, cette violence, elle finit par vous paraître normale, parce qu'elle est toujours là avec vous. Et donc, je dis dans mon livre, mon père, la violence, il l'appelait plus la violence, il l'appelait la vie, parce que c'est comme ça. Donc, si vous allez le voir, et que vous lui dites, alors, parle de ta vie, il vous dira pas qu'elle est violente, alors qu'elle l'est. Il a 50 ans, il peut plus marcher, il a besoin d'une machine pour respirer la nuit, qui branche à son cœur, enfin je sais pas comment ça marche, et ça c'est pas normal, ça c'est violent. Mais comme c'était le cas de tout le monde à peu près autour de lui, enfin tout le monde j'exagère, mais de beaucoup de gens, comme c'était un corps de classe qui était comme ça, marqué par l'exclusion, la destruction, on finit par se dire, bon ben, c'est comme ça. Il y a pas très longtemps j'ai vu quelqu'un, je suis allé voir ma sœur, elle était avec un ami, Il avait 25 ans, il me disait je suis ouvrier du bâtiment, il y a des jours où j'ai le dos bloqué, je peux plus marcher pendant une journée parce que je porte des sacs de ciment. Et il le disait en souriant, il le disait en rigolant. Et moi j'avais envie de pleurer, j'avais envie de dire mais c'est pas normal, on a le même âge, c'est pas normal que tu puisses plus marcher, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, comme c'était la vie de son père avait fait la même chose, il me l'a dit après, et son grand-père, eh ben, c'est plus la violence, c'est la vie. Et voilà. Et donc, il y a une dépossession extrême dans les classes populaires qui est qu'on peut même plus parler de soi, on peut même plus dire je. Et moi, je suis là pour dire je, pour ceux qui peuvent pas le dire, pour ceux qui ne pourront jamais le dire, pour ceux qui n'ont jamais pu le dire, en espérant qu'un jour ils pourront dire je.
Et vous mentionnez une violence au début de ce livre-là qui a tué mon père, Édouard Louis, qui est non seulement celle d'être le seul à parler. Alors on a compris la violence qui dépossède votre père de la possibilité de parler sa vie, mais par conséquent, ça vous dépossède aussi de l'entendre. Ça vous dépossède aussi d'avoir une réponse à quelque chose, si jamais vous aviez des questions. Ça vous dépossède aussi de recevoir un langage de la part de votre père. C'est ça aussi qui est écrit dans ce livre.
Mais oui, bien sûr, parce que je m'en rends compte maintenant, j'aimerais le connaître. J'aurais aimé savoir des choses que je sais que je saurais jamais, quand je faisais En finir avec Eddie Bellegueule, quand j'écrivais En finir avec Eddie Bellegueule, déjà, entre 18 et 20 ans, qui est le moment où j'ai écrit ce livre, je me souviens que je posais des questions à ma mère, alors j'allais plutôt voir les femmes, j'allais plutôt voir ma mère, j'allais plutôt voir ma sœur, parce que dans mon enfance c'était le rôle donné aux femmes de parler, de raconter la vie, de raconter les histoires. Et c'est vrai que j'étais dans une situation de manque permanent, en fait. J'arrivais pas, comme vous dites, c'était cette violence, et que j'arrivais pas à entendre, parce qu'on n'arrivait pas à constituer sa vie comme disant quelque chose.
Qui êtes auteur, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il vous manque aussi une langue. C'est pas que une histoire, c'est pas que des faits. À un moment donné, ça veut dire que aussi il vous manque, alors vous l'avez attrapé autre part, mais il vous manque aussi une langue pour pouvoir dire votre vie propre.
Oui, bien sûr. Il me manque ces expériences qui sont associées à une langue, qui est une manière de le dire. Et dans les deux premiers livres, pas dans celui-là, mais dans Histoire de la violence et En finir avec Eddie Bellegueule, j'essayais de mettre la langue de mon enfance au cœur des livres, parce que cette langue, elle dit quelque chose en plus sur la réalité, sur ce qui s'est passé. La langue, c'est pas un accessoire qui s'ajoute à la réalité, c'est une manière de vivre la réalité qui est complètement différente. Et mon père, il a jamais appris à dire gay, par exemple. Il disait pédé. Donc, sachant que moi, je suis gay, que son fils était gay, la seule chose qu'il a appris à dire, c'était l'insulte. Donc, vous voyez, c'est pas simplement un langage différent pour nommer quelque chose. C'est que ça conditionne déjà toute l'expérience. Il y a une très très belle scène, alors à un niveau de violence complètement différent. Il y a une très très belle scène que Primo Levi raconte dans Les naufragés et les rescapés, son dernier recueil d'essais, publié, je sais plus, soit sensiblement avant son suicide ou après. Et où il raconte qu'en fait, la plupart de l'allemand qui parlait, c'est l'allemand qu'il a appris dans les camps. Donc, vous savez, Primo Levi a survécu à Auschwitz. Il est rentré en Italie, il a repris son activité de chimiste et il a écrit sur les camps, et donc il reprend son activité de chimiste parce que c'était quelque chose qui était important pour lui. Et un jour il a rendez-vous avec des Allemands pour le travail, et il veut leur montrer qu'il parle allemand. Primo Levi veut leur montrer qu'il connaît quelques mots d'allemand, comme on fait tous, vous voyez, on va en Angleterre, on est trop content de dire hello, how are you, parce qu'on veut montrer qu'on parle un peu. Et donc Primo Levi fait cette réunion avec ces gens, et au moment où ils partent, il veut leur dire c'est bon, vous pouvez sortir, on a terminé, je sais plus très bien. Et il leur dit en allemand, mais ce qu'il leur dit, c'est « cassez-vous, bande de blaireaux » ou quelque chose comme ça, vous voyez. Enfin, c'est approximatif ce que je dis, mais en tout cas, la structure est là. Et là, Primo Levi voit ces gens qu'il regarde comme s'il était un fou, et il se rend compte que l'allemand qu'il avait, cette langue qu'il avait appris dans les camps, c'était pas l'allemand, c'était l'allemand des nazis, c'était une autre langue, et qu'elle était déjà formée, constituée par la violence. Et donc, il y avait, vous voyez, c'est un langage où vous avez même pas besoin de vouloir être violent, la violence vous précède déjà par le langage. Et donc, il y a ça que j'essaye de restituer dans mes livres, c'est que, voilà, le langage, c'était pas un accessoire en plus, c'est pas juste une autre manière, c'est tout un rapport au monde qui est donné ou imposé, parce qu'on choisit pas sa langue. Même le français, moi, j'ai pas choisi le français, vous voyez. C'est pas de ma faute.
Ce que je ne voulais pas faire, c'était un roman sur mon père, mais c'était de saisir d'une façon très objectale, presque, les faits de sa vie et surtout tout ce qui était notre monde, notre culture. Parce que le cheminement que j'avais fait, donc, depuis, non seulement depuis sa mort, mais depuis que j'écrivais, et puis j'écrivais tout de même depuis 74, avec les armoires vides autour de la déchirure culturelle avec mes parents, ce qui comptait par-dessus tout, c'était justement de montrer, non pas mon père en figure individuelle, mais en figure de ce monde-là. De ce monde humilié, ce monde du travail, de la terre, des petits commerçants, et la façon de, c'était la façon de vivre de mon père, mais elle était aussi celle des gens dans le quartier, du reste de la famille. Mais en même temps, il conserve sa singularité, c'est-à-dire, je montre qu'effectivement, enfin, je dis qu'il était gay, il y a quand même des petites anecdotes individuelles, mais ce n'est pas l'anecdotique qui prend le pas. Ça, comme on l'avait dit au moment de la sortie, ça n'était pas du tout la gloire de mon père, de Marcel Pagnol, bien sûr.
Archives de 2001, c'est Annie Ernaux qui s'exprime au micro de Olivier Germain Thomas sur France Culture dans l'émission Fort Intérieur. Édouard Louis, elle dit finalement, ce que je n'ai vraiment pas voulu faire, c'est écrire la vie de mon père comme celle d'une figure individuelle. Et que cette vie-là et les faits de sa vie sont là, en fait, pour dire d'autres vies. Et je ne sais pas si cette question, elle est tellement tranchée dans votre livre Qui a tué mon père. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne exactement de cette manière-là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, si vous voulez, et c'est pas du tout une critique que j'adresse à Annie Ernaux, que j'admire infiniment, bien sûr, et au-delà, c'est une approche différente. J'ai la sensation que, quand on écrit sur les classes populaires, il faut toujours s'excuser, voyez. Il faut toujours dire, non, je parle pas d'un individu, je parle d'une classe. Et si vous écrivez une biographie de Napoléon ou Simone Veil, on s'excuse pas. On dit pas quand j'ai écrit sur Marguerite Duras ou quand j'ai écrit sur Simone Veil, c'était une manière de parler d'autre chose.
C'est une vie individuelle et c'est possible.
Exactement. Alors que quand c'est les classes populaires, on se sent toujours obligé de dire « mais non ». Alors moi, non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire « j'écris un livre parce que je veux parler de mon père ».
Et de lui. Et pas de lui. Parce que sa vie, alors peut-être que par ricochet, sa vie parle d'autre vie, mais on sent que... Il est question d'écrire cette vie-là précisément.
Oui, exactement. Oui, c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, justement, et c'est ce qu'on se disait juste avant, sa vie, son corps, il est traversé par des forces sociales, la masculinité, le racisme, l'exclusion sociale, la persécution, par une histoire politique, de gens qui prennent des décisions qui affectent son corps. Mais en même temps, oui, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et je veux pas m'excuser de ça, en fait. Et c'est vrai que faire de l'autobiographie, dire je pour soi ou dire je pour quelqu'un d'autre, selon la classe dont vous parlez, selon le milieu dont vous parlez, ça prend un sens différent, justement. Vous voyez, c'est un peu comme le mariage gay, qui est un moment où la communauté LGBT, comme ça, volait quelque chose à la structure hétérosexuelle, aux hétérosexuels. Et ben, dire je, pour parler des classes populaires, assumer qu'on parle de quelqu'un, arrêter de s'excuser, c'est un peu la même chose, voyez. C'est aller voler quelque chose. Moi, je vais voler ça à la bourgeoisie. Je vais voler la capacité de dire je à la bourgeoisie. Et c'est ça.
Est-ce que vous parlez plus de votre père que de vous, enfant, adolescent, jeune adulte, parlant de votre père?
Oui, parce que la connaissance que j'ai de mon père, c'est une connaissance par mes yeux à moi, par mon vécu à moi, par mon expérience à moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire sur mon père, il y avait deux options, en gros, qui se présentaient. C'était soit je faisais une enquête, je faisais un gros livre comme ça où j'allais interviewer des gens, éventuellement je faisais des archives, j'ai fait des études de sociologie, donc je sais à peu près comment on fait des archives, comment on fait du terrain et tout ça. Soit je partais de la méconnaissance, soit je partais du silence, soit je parlais de l'absence, soit je partais du fait que je le connaissais pas, à part justement ces scènes où je l'ai vu, ces scènes où j'ai vu son corps se mouvoir, où je l'ai vu dire quelque chose, où je l'ai vu dire « je souffre », où je l'ai vu ne pas pouvoir dire « je t'aime », où je l'ai vu dire « j'en ai marre ». Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'était pas tout à fait vrai ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, c'est plus complexe que ça. Quand je disais « la violence, on finit par ne plus la voir, elle finit par être normale, elle finit par être la vie », c'est pas vrai tout le temps. C'est pas vrai.
Mais c'est surtout que vous décrivez des êtres qui changent, Édouard Louis. Ouais, enfin, exactement. Vous écrivez un homme qui peut-être ne la voyait pas à un certain moment, cette violence, mais qui aujourd'hui, à 50 ans ou un peu plus, la voit ou est capable de la nommer davantage. Mais exactement. De même que vous vous écrivez vous-même en train de changer. Mm-hmm. Vous n'êtes pas l'homme qui a écrit En finir avec Eddie Belgol. D'ailleurs, vous ne regardez pas votre père de la même manière.
Oui, non, bien sûr. Non, vous avez tout à fait raison. C'est d'abord, il y avait dans le rapport au monde comme ça des moments où la voix perçait justement cette habitude de la violence, et où des moments, parfois les gens disaient « j'en peux plus, j'en peux plus ». Moi, dans mon enfance, j'ai vu une fois ma mère comme ça, j'avais 9 ans, et ma mère se plaignait très peu de sa vie. On lui disait « j'en ai marre de faire le ménage » et tout ça, parce qu'elle devait le faire tout le temps, mon père voulait jamais l'aider. Elle se plaignait très peu, et puis un jour elle a pleuré. Un jour elle a dit « je n'en peux plus de cette vie, c'est pas une vie normale ». J'ai pas le droit de travailler, parce que ton père veut pas que je travaille, parce que ça l'humilie si c'est moi qui ramène l'argent à la maison. Ton père veut pas que je me maquille. J'ai pas le droit d'avoir des copines. J'en ai marre. Donc il y a des fois où comme ça a explosé. Et moi, le jour où j'ai entendu ma mère dire ça, et donc justement, en fait, c'est lié à ce que vous disiez avant, c'est que s'il y a des éclats de conscience comme ça, à un moment donné, ça veut dire que les gens peuvent se raccrocher à un discours et peuvent changer. Et je raconte dans Qui a tué mon père, comment mon père qui, quand j'étais enfant, mon père, il disait « il faut tuer les PD ». Enfin, c'était une phrase, il a répété comme ça. Il votait pour le Front National. Aujourd'hui...
Il vous demande si vous faites encore de la politique et quel est l'homme que vous aimez.
Exactement. Il me dit « viens avec ton amoureux, si tu veux. Viens me voir avec ton amoureux ». Alors, je vois que c'est quand même un peu compliqué. C'est pas si facile que ça. Je pense qu'il espère que je dirais non quand il me dit ça. Mais au moins, il le dit. Il vote plus pour l'extrême droite. Il vote plus pour... Et donc, ouais, vous avez raison. C'est aussi... En fait, il y a un double mouvement dans Qui a tué mon père. C'est à la fois un corps qui change. Et à travers ça, montrer comment... appartenir à certains milieux, appartenir à certaines classes, c'est aussi justement ne jamais avoir... quasiment jamais cette possibilité de changer,
de bouger,
de devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même si en soi on a des fragments de révolte, des moments où on n'en peut plus, des moments de lucidité, en fait, il n'y a presque jamais un moment où vous pouvez vous accrocher à un discours qui vous permettra de vous penser autrement.
Enfin, vous racontez très souvent que vous vous êtes accroché à ces éclats-là et que vous avez eu la possibilité de vous penser autrement.
Oui, c'est vrai, mais parce que moi j'ai eu la chance d'être exclu du milieu de mon enfance. Comme j'étais un garçon efféminé, comme j'étais un petit garçon gay, c'est ce que je raconte dans mon premier livre, tout de suite on n'a pas voulu de moi, on a dit tu n'es pas comme nous, PD, c'est ce qu'on me disait à l'école, bon. Et à cause de ça, puisqu'on me disait tu étais différent.
Finalement, c'était l'opportunité de se penser différemment.
Ouais, exactement. Et en fait, aujourd'hui, quand par exemple une certaine bourgeoisie m'attaque parce que je parle des classes populaires et qui supportent pas ça, qui veulent pas voir cette réalité-là, ils se rendent pas compte qu'ils me sauvent une deuxième fois. Parce que comme ça, j'adhérerai jamais à la bourgeoisie. J'adhérerai jamais à ces valeurs de dénégation de la réalité, de privilèges aveugles, d'arrogance sur le monde. En fait.
Est-ce que vous avez peur de ça, d'adhérer à la bourgeoisie? Vous pensez que c'est une sorte de petit risque qui plane?
Bah non, en fait, justement, on m'a vraiment.
Enfin, c'est légitime, hein?
Ouais, c'est vrai. Mais oui, parce que voyez, quand vous êtes un transfuge de classe, comme Didier Ribon, comme Annie Ernaux, comme Peter Handke, comme il y a un moment, vous pouvez avoir une sorte de fascination, de contentement de vous-même. Didier Ribon, dans Retour à Reims, il parle de ça, le moment où il va à l'opéra. Et quand vous allez à l'opéra, les gens voient ce qu'ils sont en train de faire, voient qu'ils sont en train de participer à quelque chose de privilégié, à quelque chose qui montre leur appartenance de classe. Il y a presque une fierté de son propre corps quand la bourgeoisie va à l'opéra. Et c'est vrai que quand vous êtes transfuge, c'est dur à un moment donné de je sais pas si c'est dur, mais en tout cas, il y a une sorte de fascination qui peut se produire. Et donc, si vous voulez, d'être perçu comme illégitime par la bourgeoisie quand vous écrivez sur les classes populaires, par une certaine, en fait, pas par tout le monde évidemment, mais en fait, ces gens-là se rendent pas compte que ils vous sauvent, ils créent une arme contre eux-mêmes, en fait.
Peut-être que même vous le cherchez au final.
Bah oui.
Peut-être que si ça vous sauve, vous devez le chercher à un endroit. Pour en revenir à la structure de ce livre Qui a tué mon père, et puisque vous parliez des éclats de lucidité, c'est aussi un livre qui fonctionne par éclats, mais cette fois, alors peut-être de lucidité, mais surtout de mémoire. On sent que vous avez laissé revenir les souvenirs pour ce qu'ils avaient à vous dire au présent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été triés, ça veut dire que vous n'avez pas cherché à en établir une chronologie, ça veut dire que vous n'en avez pas favorisé un plutôt qu'un autre. Comment est-ce que vous avez procédé quasiment techniquement pour écrire ce livre-là ?
Oui, j'ai voulu que Qui a tué mon père soit vraiment un livre de la mémoire, et donc que ce soit un livre qui fonctionne comme notre mémoire à nous. On n'a pas une mémoire linéaire, on a une mémoire comme ça, par éclat, par moment, par image, par voix, et c'est ça que j'ai voulu garder. Et c'est vrai que quand on fait un livre, un roman, comme je l'avais fait pour Histoire de la violence ou En finir avec Eddie Bellegueule, on a tendance parfois à construire des choses pas forcément fictionnelles, mais en tout cas un peu artificielles, pour créer des liens, des transitions entre les chapitres, entre deux moments, et j'ai voulu, voilà, trouver une forme très différente. Je rends hommage à la fin du livre au film de Terrence Malick, qui pour moi vraiment représente ça, c'est espèce de fragments d'images, de scènes qui se superposent et qui, superposées les unes aux autres, forment une vie. Et quelque chose peut-être de plus vrai que ce côté un peu artificiel qu'on peut avoir dans la littérature quand on veut créer une sorte d'unité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, loin de là. Mais en tout cas, là, il y avait quelque chose qui était plus vrai. Et d'ailleurs, c'était plus vrai pour mon père en particulier, parce que je l'ai connu que comme ça.
Et parce que c'était fragmenté déjà, comme si c'était une façon presque de ne pas l'écrire, de continuer de ne pas l'écrire.
Bah, en tout cas, j'ai fait avec ce que j'avais. et ça me paraissait donc plus sincère et donc plus vrai, en fait. Et là, ce qui est super beau, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ce qui est très beau, c'est que depuis que j'ai publié Qui a tué mon père, j'ai reçu vraiment beaucoup de lettres de gens qui m'écrivent leur Qui a tué mon père. Et donc, tous les jours, comme ça, au courrier, j'ai des lettres de gens qui m'écrivent les fragments, les souvenirs de leur père, de leur mère aussi, et qui me racontent des vies comme ça. Et peut-être que c'est parce qu'ils ont ressenti quelque chose de vrai dans cette démarche et qu'ils ont retrouvé quelque chose qui leur donne envie de parler. Et moi, c'est toujours, j'ai toujours eu envie de ça. Pour moi, il y a deux cultures. Il y a la culture au sens général, c'est la littérature, l'art, le théâtre, le cinéma. Il y a la culture qui fait taire parce qu'elle vous remet à votre place. Vous remet à votre place de spectatrice, de spectateur, de lectrice, de lecteur. Et il y a l'art qui produit un désir irrépressible de parler, une envie de parler. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire des livres comme ça, que les gens ils puissent plus s'arrêter. Et les livres d'Annie Ernaux, ils ont été ça pour moi. C'est des livres, et pour tout le monde. Enfin, dès que vous parlez d'Annie Ernaux quelque part, les gens se mettent à vous raconter leur vie, à vous parler de leur mère, de leur sœur. Et moi, j'ai envie de créer ça, une forme littéraire qui produise un désir irrépressible de parler. Et quand je reçois ces lettres, après Qui a tué mon père, ça, c'est quelque chose qui est... C'est ce qu'il y a de plus beau.
Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'homme qui l'a le dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a le dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Il a su parler de cette honte d'être un homme, et lui l'a fait à un niveau extrêmement profond, puisque c'est à la suite de son retour des camps d'extermination que... Il en sort avec, il dit, oui, quand j'ai été libéré, ce qui dominait, c'était la honte d'être un homme. Il y a cette idée que, ou ce sentiment très vif une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. C'est, tout ça, c'est des puissances de vie fantastiques. C'est des puissances de vie fantastiques si mal que ça tourne, tu comprends? Un personnage de roman, il a intégré en lui des mondes, c'est une espèce de géant, quoi. C'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. Ben, l'art, il est production de ces exagérations. Et c'est sa seule, c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance. Ou bien, comme on disait, alors on rejoint notre premier thème, ah, écrire, c'est toujours écrire pour les animaux. C'est-à-dire pas à leur intention, mais à leur place. C'est ce que les animaux feraient pas, ça par écrire. Bon, libérer la vie. Libérer la vie des prisons que l'homme... et c'est ça, résister. C'est ça, résister, je sais pas. C'est... On le voit bien avec ce que les artistes font. Je veux dire, il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort, d'abord.
C'est Gilles Deleuze dans l'abécédaire avec Claire Pernet en 1988, à l'entrée R comme résister. On pourrait dire aussi R comme révolution ou R comme révolte, Édouard Louis. Écrire des romans, c'est libérer les puissances de vie que l'homme a emprisonnées. Et vous dites souvent... que écrire, alors tout à l'heure vous disiez c'est une manière de faire en sorte que les gens ne se taisent pas, ou une manière de laisser de la place à la révolte. Et ce livre-là, Qui a tué mon père, se termine par le mot révolution. Est-ce que vous avez l'impression que Qui a tué mon père, c'est un livre qui libère les puissances de vie emprisonnées par les hommes?
Ben j'espère. Moi ce que j'espère toujours, c'est que les gens, après avoir lu un de mes livres, soient en colère. Et il y a un rapport entre la colère et la vérité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité sans colère. Il faut au moins un sentiment aussi puissant que la colère pour s'arracher justement à tout ce qui est tellement intégré, tellement inscrit dans nos corps qu'on le voit plus, qu'on en parle plus, qu'on le dit plus. Et donc, oui, révolution, colère, vérité, c'est une sorte d'équation. Et c'est ça que je veux toujours. Il y a plein de formes de colère différentes. On peut faire plein de choses très différentes. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait ça, ouais, parce que il y a une sorte de... Il y a un manque de vérité. Hein. Moi, je trouve qu'on suffoque d'un manque de vérité.
Mais qui devrait être porté, pensé par qui, parlé par qui, cette vérité, Édouard Louis?
Par le plus de gens possible. Moi, si j'ai un petit décalage par rapport à Deleuze, à ce qu'il vient de dire, c'est que, enfin, il parle avec cette fascination pour l'art. D'abord, moi, je pense qu'il y a plein d'arts qui sont violents. Il y a plein d'arts négatifs. Hein. Il y a plein de livres, il y a plein de pièces, il y a plein de films qui reproduisent le monde tel qu'il est, qui reproduisent la laideur du monde, qui reproduisent des discours misogynes,
mais
racistes.
Est-ce qu'ils en sont moins art pour autant?
Alors ça, je sais pas. Ou alors ça veut dire qu'il faut prendre du... Il y a de l'art contre lequel il faut lutter et de l'art qu'il faut accompagner.
Pourquoi pas?
Et donc, l'art, ce qu'on appelle l'art, c'est évidemment une lutte presque à la vie et à la mort entre des manières de concevoir la manière de penser, de créer. Et donc, utiliser cette forme d'expression pour parler de ceux qui sont justement de ceux qui sont réduits au silence, de ceux qui sont... Deleuze parle des animaux. C'est pour moi, ça devrait être le geste de toute écrivaine ou de tout écrivain, c'est-à-dire vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes devant, et là vous vous dites qui ne peut pas parler, ok, c'est ça, c'est qui n'est pas là. C'est ça la question qu'on devrait se poser. Et qui est encore plus que pas là? C'est-à-dire, qui est tellement absente ou absent qu'on ne le penserait même pas comme absent? Parce que pour être pensé comme absent, il faut avoir été pensé comme potentiellement présent, exactement. Et donc qui est tellement absent que même l'absence serait un luxe pour cette personne. Que même l'absence est quelque chose de tellement éloigné que ça correspond pas à sa vie.
Est-ce que vous êtes passé du côté de ceux qui peuvent parler, Édouard Louis?
Ben,
complètement,
objectivement,
j'entends.
Objectivement, oui. Et j'essaye d'utiliser cette position, je sais pas, qui m'est tombée dessus un peu. J'essaye de l'utiliser pour faire ça. C'est beau de parler pour les autres. C'est beau de. Souvent, c'est un peu déprécié maintenant de dire ce serait comme un vol de parler pour les autres. Mais si vous refusez de parler pour les autres, alors il y a des vies, des expériences, des souffrances
qui seront jamais dites.
Qui seront jamais dites, jamais dites. Et comme on parle beaucoup de Primo Levi, aujourd'hui, il y a cette phrase très belle de Primo Levi, encore une fois dans Les Naufragés et les Rescapés, où Levi dit les gens qui ont vécu la violence du camp jusqu'au bout, par définition, ne pourront pas en parler, parce qu'elles sont mortes ou ils sont morts. Et Primo Levi dit, moi, c'est parce que j'ai été privilégié. Alors évidemment, un mot qui semble à peine probable dans ce contexte-là. Il dit, c'est parce que j'ai été privilégié que j'ai pu parler. Et donc, cette idée de Primo Levi, c'est de dire, si on refuse de parler pour les autres, alors il y a des gens dont on parlera jamais. Et ça, c'est un scandale. Et ça, c'est pas possible. Et voilà. Et donc, parce que justement, il n'y a pas de violence sans silence. Pas de violence sans silence. Et Primo Levi va même jusqu'à dire, moi je suis pas un témoin, je me vois de moins en moins comme un témoin des camps parce que justement j'ai pas tout vu jusqu'au bout, parce que si j'avais tout vu jusqu'au bout,
je serais pas là.
Et voilà, et donc pour moi, toute forme, alors évidemment Primo Levi c'est dans un contexte comme ça, indicible, enfin justement qu'il faut dire, mais ça devrait être le point de départ de moi quand j'écris, je me dis ça, je me dis qui n'est pas là et au-delà de l'absence.
Gilles Deleuze, il évoque Primo Levi pour amener un autre sentiment qui est la vie d'écrivain, la vie d'artiste ou la vie d'homme comme une vie de honte. C'est aussi quelque chose que vous prononcez, Édouard Louis, de temps en temps. Elle s'inscrit à quel endroit pour vous?
Oui, ce serait un niveau. Un peu différent. Je jamais trop su ce que ça voulait dire l'homme. Je sais pas trop. Mais en tout cas, pour moi, la honte, elle est toujours là. C'est une honte face au monde. C'est une honte. C'est qu'au moment où je commence à écrire mon livre, au moment où je commence à écrire Qui a tué mon père, je sais que je pourrais faire quelque chose d'autre qui aurait une efficacité maintenant, qui pourrait affecter un tant soit peu le présent. À la fin de la journée, j'ai pas affecté le présent si je passe la journée à écrire. Je pourrais aller aider SDF, je pourrais aller aider des migrants, je pourrais aller distribuer des bouteilles d'eau, je pourrais aller libérer des animaux, des abattoirs.
Mais vous vous contredisez complètement, puisque par ailleurs, vous soutenez une puissance de la littérature telle qu'à la fin de la lecture, c'est un geste qui peut emmener d'autres personnes à le faire et à parler.
Justement, oui, non, c'est la deuxième partie de l'argumentation. C'est d'ailleurs, en plus, il n'y a pas une opposition absolue, parce que j'ai fait partie de mouvements sociaux, j'ai été avec les réfugiés qui étaient à Paris 8, qui sont en ce moment chassés, qui s'étaient réfugiés.
Vous étiez hier soir à une soirée organisée par un comité justice pour Adama.
Oui, bien sûr. Donc bien sûr, on peut tout à fait faire ces choses-là, mais justement, ce que je veux dire, c'est que la honte, ça ne veut pas dire arrêter d'écrire, au contraire. Et c'est pour ça qu'il est important de garder les deux partie de cette argumentation, de cette dialectique, c'est de partir de cette honte au moment où on écrit. C'est-à-dire, comment est-ce que ça peut transformer ma pratique littéraire? Parce que bien sûr, on le sait que la vie des femmes aurait jamais été la même sans Simone de Beauvoir, on le sait qu'il y a une puissance, le Karl Marx sur les classes ouvrières, c'est quand même, alors aujourd'hui les gouvernements sont en train d'essayer de casser tout ça, mais il y a eu des livres comme ça qui ont produit des transformations gigantesques, et donc bien sûr je crois à ça, mais cette honte elle doit justement informer la pratique, vous voyez, c'est Marguerite Duras au début de La Douleur, vous savez, elle dit qu'elle retrouve son journal de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre, de l'extermination, et quand elle retrouve ce journal, elle écrit dans l'introduction, quand j'ai retrouvé ce journal avant de le publier, je me suis retrouvé à un torrent de sentiments face auquel la littérature m'a fait honte. ma petite phrase, mon style, ma belle écriture, mon livre, la réception de mon livre. Est-ce que les gens vont l'aimer? Qu'est-ce que ça vaut, ça, par rapport à la guerre? Et donc Marguerite Duras, elle n'arrête pas d'écrire, elle ne lit pas ça. Mais elle se pose cette question-là. Et c'est parce qu'elle se la pose qu'elle fait. Elle fait de la littérature pas comme les autres.
Alors comment ça transforme votre littérature à vous?
Ben justement, c'est que je me dis de quoi il faut parler, de quoi il est important de parler. Il y a une responsabilité de l'écrivaine, de l'écrivain. Est-ce que je parle des migrants qui meurent, ou est-ce que je parle de mon amour pour les lunettes? Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, ça aussi, ça ajoute un niveau de complexité, parce que vous pouvez, Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, elle décrit un milieu privilégié, elle écrit la bourgeoisie déclassée, qui était le milieu de son enfance, et en même temps, pour elle, c'est une manière de parler des femmes, de parler du racisme, de parler de la guerre, des classes, donc il n'y a pas un moyen... Mais la réponse à ça, justement, c'est pas justement ne pas écrire, mais la réponse, c'est justement la question. C'est de se poser la question de la valeur de ce qu'on fait. C'est de pas trop croire en la littérature, de pas trop croire en l'art, de pas se dire parce que je fais de l'art, parce que je fais de la littérature, je suis quelqu'un de bien, je suis du bon côté. Vous voyez, j'ai vécu un peu aux États-Unis ces dernières années. Vous allez dans un cocktail littéraire à New York, les gens, ils ont l'impression qu'ils résistent à Trump juste parce qu'ils appartiennent à la culture, juste parce qu'ils appartiennent à la littérature, comme si le simple fait d'être là, c'était un signe de résistance, mais pas du tout. Pas du tout. Les migrants mexicains, ils continuent à mourir. Ils continuent de mourir. Il n'y a pas une valeur immédiate de l'art, vous voyez. Et justement, pour faire une littérature, un art qui vaut quelque chose, la réponse, c'est cette question-là. C'est qu'est-ce que ça vaut? C'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Je ne dis pas qu'elle est nouvelle, je dis qu'il faut la poser de manière nouvelle.
Mais qu'est-ce que ça vaut aux yeux de qui?
Quand Sartre dit « qu'est-ce que vaut la nausée face à un enfant qui meurt ?» C'est vrai. C'est une interpellation éthique à côté de laquelle on ne peut pas passer. C'est vrai. Et justement, si on se pose cette question-là, on fait des livres pas comme les autres. Et on fait des livres qui affectent la vie de femme, qui affectent la vie d'homme, qui rendent les choses moins hideuses. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça.
Oui. Partir un jour
par les temps qui courent,
sans retour,
Marie Richeux.
Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin. Vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, pas regretter, penser à demain, recommencer. Pour l'amour que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne, pour un rêve qui nous étonne, pour le goût retrouvé de la liberté. Ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir dire un jour.
Ma nature, c'est celui d'un lecteur plutôt. Quand je suis en train d'écrire, c'est une occupation qui ne me va pas vraiment. Pour ça, je me sens illégal. Mais ce n'est pas une coquetterie, ça. De me mettre dans l'écriture, c'est toujours... Même si je suis dedans déjà, je ne suis pas dedans. Il faut chaque fois, chaque jour, c'est un seuil. Mais la lecture, quand je suis lecteur, ça c'est absolument comme si c'était la respiration qui m'a manqué. Ça, là, je reconnais la vraie lecture, ce qui vaut la peine d'être lu quand je retrouve la grande respiration où je ne suis pas seulement moi, je suis le lecteur. Le lecteur est plus large et plus légal que moi. Oui. Mais comme écrivain, comme pratiquant, soi-disant, je me sens illégal. Mais en même temps, j'aime bien ça. Il faut cette illégalité, parce que comme ça, ça devient... Sinon, comme lecteur, je ne suis jamais quelqu'un qui triomphe. Mais comme illégal, dans l'illégalité, je suis comme quelqu'un qui se venge en face de la création. Moi, je suis... C'est lui qui fait quelque chose qui est quand même digne à la création, mais en même temps qu'il ne faut pas faire peut-être, qu'il faut laisser la création comme elle est, sans écriture.
Bon, on pourrait parler des heures hein, de cette dernière phrase de Peter Handke au micro de Virginie Brooklyn en 2013 dans les Entretiens à voix nue diffusés sur France Culture. Je fais quelque chose de digne, mais en même temps peut-être qui ne devrait pas être fait. Je me sens toujours illégal quand j'écris. Peter Handke, ça fait partie des noms que vous remerciez à la fin de votre texte, Édouard Louis. Et on sent que cette page de remerciement, elle est importante. Vous disiez tout à l'heure, la honte d'écrire doit informer l'idée d'écrire. J'ai l'impression qu'en retour, au moment où le texte est terminé, l'admiration doit informer ce qu'on a écrit.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis un admirateur. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens, en tout cas, que j'admire sans limite. Je supporte pas la plus petite critique sur Marguerite Duras ou Peter Handke. Ça m'énerve, ça me met de mauvaise humeur. J'aime pas du tout. Je les aime totalement. Et je trouve que quand on aime quelqu'un totalement, il faut tout prendre. Et donc c'était pour moi important de mettre à la fin de Qui a tué mon père. J'avais toujours rêvé de faire ça, de mettre des remerciements. J'avais pas osé pour Histoire de la violence et en finir avec Eddie Bellegueule. Et là, je me suis dit, allez, je le fais. Et pour Qui a tué mon père, j'ai mis Terrence Malick, Tash O, Peter Handke, Claudia Rankine, tous ces gens qui ont été, justement, qui ont constitué pour moi des moments où... Vous voyez, c'est cette illégalité dont parle Peter Handke qu'on a toujours un peu. C'est dur de se dire « je peux écrire ». Vous le savez, c'est dur d'avoir le sentiment social comme ça, de se dire « j'ai le droit de le faire, je peux le faire, je le fais ». Et pour moi, l'admiration, elle est liée à ça. Elle est liée à une sorte de... C'est presque une bande, vous voyez. Dans l'illégalité, c'est une bande de voyous. Et Peter Handke, c'est un voyou qui m'a dit « tu peux écrire ». Et c'est pour ça que je voulais remercier tous ces gens à la fin de Qui a tué mon père. C'est des gens qui m'ont dit vas-y.
Est-ce que c'est un geste très différent au final de pouvoir désigner par leur nom ceux qui permettent l'écriture que de pouvoir désigner par leur nom ceux qui ont pris des mesures politiques qui laissent des traces de violence sur le corps de votre père? J'ai l'impression que dire les noms, finalement, même si vous les dites d'une manière différente et à des fins différentes, procède d'un geste assez similaire, Édouard Louis.
Oui, c'est très vrai. J'y avais pas pensé, mais vous avez raison. C'est très très vrai. C'est aussi une question de classe sociale. C'est aussi une question de position dans le monde qui fait que il y a des individus qui sont plus responsables de ce qu'ils font que d'autres. Et donc, une écrivaine, un écrivain, une femme politique, un homme politique, pour moi, c'est des gens, s'ils sont violents, ils sont plus responsables que mon père, si mon père est violent. Parce que c'est des gens qui, quand vous appartenez à un milieu plutôt privilégié, que ce soit économiquement, socialement, culturellement, vous avez une connaissance du monde. Vous pouvez lire Toni Morrison, vous pouvez lire Peter Handke, vous pouvez lire, vous pouvez voyager, vous pouvez, vous avez fait des études, vous avez, moi, mon père, comme je le décris dans ce livre, c'est quelqu'un qui a été sans cesse dépossédé de l'accès au monde. Il a jamais voyagé, il a 50 ans, il a jamais...
Donc ça amenuise sa responsabilité.
Ouais, exactement. Je pense que, évidemment, on peut pas juger de la même manière la réalité quand on connaît pas la réalité. Et donc on se comporte différemment à l'égard de la réalité. Et quelque chose que je raconte souvent aussi, c'est que quand j'étais enfant, dans ce petit village du Nord, comme ça, où j'ai grandi, où tout le monde était ouvrier jusque dans les années 80, puis l'usine a fermé, tout le monde s'est retrouvé comme ça, plus ou moins précaire. Et dans mon enfance, on pensait que la bourgeoise, c'était l'épicière du village. Donc on pensait que c'était Annie Ernaux, en fait, que c'était la mère d'Annie Ernaux. C'était ça notre vision du monde. Évidemment, moi, quand je suis parti, que je suis venu à Paris, j'ai vu qu'en fait, elle appartenait à la même classe que nous. Mais notre vision du monde, de par l'isolement, de par l'exclusion, elle était atrophiée, elle était coupée, elle était pas complète. Et si vous avez pas une vision de la réalité, vous pouvez pas agir de manière aussi responsable que quand vous connaissez la réalité. Alors quand vous êtes pour le meilleur ou pour le pire, quand vous êtes écrivain, quand vous êtes femme politique, vous savez ce que vous faites.
Et donc vous vous retrouvez avec le risque ou la chance d'être nommé par votre nom au regard des responsabilités. Comment vous expliquez, pour terminer, Édouard Louis, qu'une partie des commentaires autour de ce texte-là se soit concentrée sur quelques pages qui soient quasiment si différente et si à part du reste de votre livre?
Ben,
je pense à des pages où vous dites les noms des femmes et des hommes politiques qui, selon vous, ont abîmé le corps de votre père.
Oui, ben, tant mieux. Oui, je pense que c'est parce que aussi c'était un geste radical que j'essayais de faire, qui était de, à travers l'histoire du corps de mon père, d'inscrire dans l'histoire de son corps des décisions de femmes, d'hommes politiques, de gouvernements qui ont décidé de faire des choses, qui ont décidé de supprimer des aides sociales, qui ont décidé de des choses qui avaient des effets sur le corps de mon père. C'est-à-dire, ça voulait dire ne pas manger pendant 2 jours. Ça veut dire ne plus pouvoir aller chez le dentiste. Ça voulait dire, donc la politique, c'était pas une question de débat, de gestion, d'opinion. C'était une question d'avoir mal aux dents, d'avoir faim, de pas avoir faim. Et donc j'ai voulu vraiment intégrer cette politique au sens le plus petit de la succession des gouvernements. C'est ce livre qui a tué mon père, c'est l'histoire du corps de mon père à travers l'histoire des gouvernements qui se sont succédés. Et il y a d'autres choses aussi, les souvenirs, sa jeunesse, ses amours, ce qu'il a pas pu faire. Mais cette partie-là, peut-être qu'elle a plus dérangé, parce que justement c'est pas normal de faire ça en littérature, et c'est bien de déranger. En fait, moi, quand des gens me disent mais vos livres dérangent, je dis toujours mais il faut retourner l'étrangeté. Il faut se demander pourquoi il y a des livres qui dérangent pas. C'est plutôt ça le problème. Et en fait, c'est normal d'être attaqué. C'est bien. Ouais.
Merci beaucoup, Édouard Louis. Ce texte s'appelle Qui a tué mon père? Il est publié, comme les livres précédents, aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup. Merci.
Ravir, s'abriter pour dormir, fuir, traverser des déserts de forêt, tremper, glisser, s'écorcher, pâlir, demeurer.
Au son ce soir, c'était Pierre Monteil à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un immense merci à Jeanne Léos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre. Je vous fais des très 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 vastes bisous pour tout ce que vous avez apporté à cette émission pendant l'année. Un grand merci à toutes celles et ceux qui y sont passés de manière plus brève. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission Par les temps qui courent sur France Culture. Pendant tout l'été, à 21h, à cette heure-là, seront diffusées les séries musicales que vous pourrez aussi écouter à 15h. Vous pouvez commencer par écouter Victor Massé de l'Épinay, qui décide de conjuguer musique et sport. Et quant à nous, avec Lise-Marie Barré, on conjuguera musique et amour du 16 au 20 juillet. Bonsoir.